pour nous, c'était de trouver les bons partenaires, prendre le temps de trouver le bon partenaire qui partage un petit peu où qu'on veut qu'ils vivent, puis d'avoir assez de capital pour pouvoir grandir rapidement. Fait qu'on a été vraiment, vraiment contents du partenaire qu'on a choisi. On a pris le temps pour choisir. On a dû pitcher à 50 fonds différents, puis on a vraiment été sélectifs. On a trouvé un fonds du Canada qui était pas juste focusé sur le retour économique, mais aussi sur le volet impact.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 121e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Des belles et jeunes entreprises en hypercroissance au Québec, croyez-moi, il y en a. C'est d'ailleurs l'objectif avec ce podcast où à chaque semaine, on tente de vous faire découvrir la crème de la crème entrepreneuriale francophone. Et l'épisode du jour ne fait pas exception à la règle. Dominique Dubé, cofondateur de l'entreprise de smoothie Evive, est avec nous aujourd'hui afin de nous expliquer comment son entreprise a atteint plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires dans la dernière année. Et tout ça après moins de 7 ans d'existence seulement. Leur produit, né d'un besoin que lui, sa conjointe et associée Claudia ont créé suite à leurs propres problématiques quotidiennes, devient un brand incontournable en Amérique du Nord dans la catégorie alimentaire. J'espère que l'histoire de Evive vous poussera à prendre des risques et ainsi accélérer votre croissance. Sans plus attendre, ma discussion avec Dominique Dubé. Dominique Dubé, tu es le président et cofondateur de l'entreprise Evive, une organisation que tu as lancée avec ta conjointe Claudia en 2015. Après 6 ans d'affaires, Evive Nutrition se situe maintenant dans 2500 points de vente en Amérique du Nord, génère un chiffre d'affaires de près de 30 millions de dollars à l'année et a maintenant une présence accrue dans près de 35 États américains. Dominique Dubé, au nom de toute l'équipe du podcast Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Antoine, ça fait plaisir, j'étais bien content de pouvoir échanger avec toi.
Et Dominique, on va parler dans quelques minutes de la belle croissance que votre entreprise a eue dans les dernières années, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu expliquer à notre audience aujourd'hui qu'est-ce que Evive Nutrition et quels sont les produits que vous offrez?
Yes, ben Evive, en fait, c'est une compagnie qu'on a cofondée en 2015, ma femme et moi, et puis c'est parti d'une idée toute simple. À chaque matin, Claudia faisait un smoothie très, très santé avec des graines de chanvre, du kale, name it. Là, il y avait un paquet d'ingrédients là-dedans. Puis, ça prenait bon 15-20 minutes. Puis, ça faisait tout le temps un genre de semi-bordel dans la cuisine. Puis, l'idée, en fait, c'est est-ce qu'on peut rendre ce smoothie-là qui est très nutritif, super qualité, puis que, dans le fond, tout le monde pourrait bénéficier d'avoir à chaque matin? Est-ce qu'on peut rendre ça accessible? Est-ce qu'on peut rendre ça simple le matin? Puis, c'est là qu'on a eu l'idée de le faire en petits cubes surgelés. Pour que le matin, on fasse juste mettre les petits cubes dans une bouteille, un pot maçon, on rajoute de l'eau, puis on part au travail, on part à l'école avec ça, puis on le shake. Donc, c'est un smoothie sans malaxeur, sans dégâts dans la cuisine, puis qu'on est capable d'avoir la même qualité de nutrition que si on le faisait, dans le fond, from scratch le matin. Fait que c'est l'idée qui a démarré l'entreprise, puis on a commencé vraiment porte par porte, pratiquement à vendre le produit. Puis 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, ben ça a été un beau succès. Et là, on rentre en fait dans d'autres catégories de produits. Puis la mission à Evive, c'est clarifier au fil du temps, tu sais, qu'est-ce que la passion de Claudia puis la mienne, c'est d'élever la nourriture qu'on consomme pour augmenter notre bien-être. Fait que ce soit les smoothies, que ce soit les repas, que ce soit maintenant des muffins, on a un paquet d'innovations qui s'en viennent l'année prochaine, mais on veut élever ces catégories-là, élever au niveau nutritionnel, élever au niveau quantité de d'ingrédients biologiques pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit mieux nourri, pour que ça augmente ultimement notre bien-être.
Puis, je crois, j'ai fait mes recherches, je pense que toi et Claudia, vous venez pas nécessairement d'une famille qui a été en affaires, une famille d'entrepreneurs. Je pense que c'est arrivé un petit peu ça par hasard. Et là, maintenant, on vous voit aujourd'hui avec 30 millions de chiffres d'affaires. où est-ce qu'il vous est venu cette envie-là d'un certain point de se dire, nous, c'est quoi, on va être des entrepreneurs?
Mm-hmm. Ben, je pense que Claudia et moi, on a chacun notre histoire à ce niveau-là. Pour moi, j'ai étudié en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke, puis on a eu l'occasion de faire 5 stages, des stages de 3-4 mois pendant le bac. Puis à la fin de mon bac, c'était 4 ans et demi, puis je savais pas du tout ce que je voulais faire. Il y avait rien qui m'avait vraiment allumé. J'avais fait de la vente, j'avais fait du manufacturier, j'avais fait, à peu près tout du génie conseil. Puis il y a rien que j'étais comme, ah, j'ai hâte de commencer à rentrer sur le marché du travail. Fait que j'avais pas de plan. Fait que là, je pensais peut-être aller voyager, un peu comme tout le monde, là, tu sais, prendre un peu de temps off. Puis là, on a eu cette idée-là. Puis j'ai dit, ben, pourquoi pas partir un petit projet on the side, là, tu sais, voir qu'est-ce que ça donne. Puis je te dirais, ma procrastination à trouver un emploi a comme fait que ce projet-là a fini par décoller un petit peu. Puis on s'est retrouvé à avoir un projet qu'on appelait un projet, mais finalement, c'est devenu une entreprise. Fait que ça a pris à peu près un an avant qu'on dise, hey, on a une entreprise, on est entrepreneur.
Puis on va essayer de situer un petit peu l'audience aujourd'hui parce que les choses sont allées très vite de votre côté. Donc, l'entreprise a été lancée en 2015 et déjà en 2018, vous terminez votre année financière à près de 3 millions en revenus annuels, donc 2,6 je crois pour être plus exact. Une croissance aussi rapide, Dominique, comment ça s'explique? Qu'est-ce qui a occasionné selon toi une prise de marché aussi vite? Parce qu'en 3 ans seulement d'existence, arriver à ce chiffre-là et par la suite on va venir et on va parler de ce qui s'est déroulé dans les années qui ont suivi, c'est assez exceptionnel tout ça là.
Ben, ça a été, je te dirais, la première année, ça a été assez mollo. C'est-à-dire qu'on avait tellement de choses. En fait, on savait pas du tout ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, on produisait les produits, c'était des cubes de smoothie. C'était encore évidemment le même concept, mais on les coupait à la main avec des gros couteaux. La production était tellement laborieuse. C'était fait dans une micro-cuisine. On avait juste, évidemment, on était juste moi puis Claudia. On livrait les produits, on les fabriquait, on faisait la vente, on faisait le marketing. Évidemment, tu fais tout quand tu commences. Fait que c'est sûr que c'est dur d'aller vite quand tu fais tout. Puis la deuxième année, on a commencé à déléguer un petit peu. On a trouvé un distributeur pour livrer les produits. Fait que là, j'étais pas dans mon auto à longueur de semaine à livrer des caisses de produits. On a engagé nos premiers stagiaires pour venir nous aider au niveau du marketing. J'ai engagé des gens en production. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a commencé à plus accélérer. Année 2, année 3, là, on avait une capacité à produire un petit peu plus grande. On avait des forces de vente avec les distributeurs qui permettaient de rentrer dans plus d'épiceries. Puis là, on a commencé à avoir un petit peu d'accélération. Puis après ça, ben ça a continué les années qui ont suivi, là, 2019, 2020, 2021. C'est un petit peu la même histoire. Tu sais, on a rentré sur de nouveaux territoires. Puis on a délégué, mais on a grossi l'équipe, grossi notre réseau de partenaires pour pouvoir capturer plus de parts de marché. Fait que ça a été ça un peu notre histoire pour les premières années.
Puis tu disais également dans une très belle lettre là, rédigée sur votre site web, d'ailleurs j'invite l'audience à aller lire le tout, j'ai trouvé ça assez fascinant quand je faisais mes recherches, que comme ben n'importe quelle entreprise en croissance, vous avez eu des réflexions sur comment vous alliez, on va dire, structurer votre croissance en tant qu'entreprise. Est-ce que vous alliez chercher ou non du financement externe? Est-ce que vous alliez chercher de la dette? Est-ce que vous alliez avoir des investisseurs qui allaient rentrer dans l'organisation? Et ben ultimement, vous avez décidé que oui, vous deviez aller chercher du financement si vous vouliez continuer de faire une croissance x2 année après année. Peux-tu nous expliquer un petit peu les coulisses là derrière cette réflexion-là? Parce que c'est quand même près de 4 millions de dollars que vous avez levé en 2018.
Ouais, exact. Ça s'est fait en phase. C'est-à-dire que c'est devenu assez clair, je te dirais, la deuxième année que on avait besoin d'argent pour la croissance. On avait été chercher les premiers prêts pour jeunes entrepreneurs là, avec Futurpreneur, BDC, Desjardins. Ils ont des beaux programmes qui permettent d'aller chercher de la dette pour juste démarrer. Fait que c'est pas de l'investissement en équité, mais ça passe vite. Là. Quand tu veux croire vite, là, un 50 000 de prêts, c'est flobé en une couple de mois. fait qu'on a été chercher des anges investisseurs en fait pour nous soutenir, pas juste au niveau de l'investissement, mais aussi pour nous coacher un petit peu. T'sais, on sortait de l'école, on n'avait pas vraiment de background en affaires. Fait que on a été chercher du smart money, là, des gens qui avaient un peu d'expérience. Puis ça, à ce moment-là, je pense qu'on avait levé 180 000 $ avec ces anges investisseurs-là. Puis un an et demi plus tard, on a fait une ronde avec des fonds d'investissement, là, donc des venture capitalists. Là. puis c'était encore une fois, pour nous, c'était de trouver les bons partenaires, prendre le temps de trouver le bon partenaire qui partage un petit peu où on veut qu'ils vivent high. Puis d'avoir assez de capital pour pouvoir grandir rapidement. Fait qu'on a été vraiment, vraiment content du partenaire qu'on a choisi. On a pris le temps pour choisir. On a dû pitcher à 50 fonds différents, puis on a vraiment été sélectif. On a trouvé un fonds du Canada qui était qui était pas juste focusé sur le retour économique, mais aussi sur le volet impact. Puis ça rejoignait beaucoup Claudia puis moi. On voulait pas un fonds qui soit comme ben dans 5 ans, tu sais, on le vend à n'importe qui, puis tu sais, on pompe le profit. C'était vraiment pas ça notre vision. Fait qu'on a trouvé le bon partenaire. Puis ça a été clé. Puis aujourd'hui, c'est une lune de miel, là, ce qui est quand même rare quand tu vas chercher des investisseurs.
Puis ces investisseurs-là, ces partenaires financiers-là sont, tu le disais, ils sont au Canada. Est-ce qu'ils sont tous au Canada ou vous en avez également au sud de la frontière?
On en a au sud de la frontière, fait que tu sais, ça a été un groupe de 2-3 fonds là, tu sais, qui se sont partagés le montant, mais le plus important c'était un fonds canadien. Initialement, nous notre stratégie c'était de dire ben vu qu'ils vivent dans un an ou deux, on veut rentrer aux États-Unis, on va aller chercher un fonds américain pour nous aider, tu sais, pour nous donner des contacts, pour nous ouvrir des portes. Puis on a eu beaucoup de difficultés à lever de l'argent aux États-Unis parce qu'on n'avait pas d'historique là-bas. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les fonds américains, ils regardaient nos revenus, notre croissance, ils étaient super excités. Mais là, ils étaient comme, ben tu sais, c'est des revenus canadiens, le Canada, c'est microscopique, ça nous intéresse pas tant que tu démontres pas que ton modèle marche un peu aux États-Unis. Fait que viens me revoir quand tu vas avoir un peu de vente aux États-Unis. Fait qu'on n'a pas réussi à lever avec des fonds vraiment intéressants aux États-Unis, mais on est ultimement super, super content d'avoir levé avec un fonds canadien, puis d'utiliser cet argent-là, puis ce réseau-là qu'il nous apporte pour faire nos tests aux États-Unis, pour ensuite peut-être aller chercher un partenaire aux États-Unis pour nous aider à croître là-bas. Mais pour bâtir les fondations, c'est vraiment avec le partenaire canadien.
Et parlons-en maintenant des États-Unis parce que c'est assez fantastique. Vous êtes dans 35 États américains et on a reçu une tonne d'invités sur le podcast qui nous l'ont dit. Tu as une entreprise en croissance quand tu commences à faire au moins 50% de ton chiffre d'affaires en dehors de ton territoire d'origine. Je sais pas si vous êtes rendu là, mais clairement avec les chiffres qu'on a été capable de parler en introduction, vous devez avoir des revenus assez intéressants aux États-Unis et dans le reste du Canada. Vous avez été une des organisations qui a le plus de facilité, même que j'ai interviewé récemment, qui vend aux consommateurs à s'intégrer aussi rapidement aux États-Unis. Comment ça s'est déroulé tout ça? Comment tu attribues ce succès d'implantation aux États-Unis qui s'est fait? Parce que là, 35 États, 30 millions de chiffres d'affaires maintenant, tout et partout, c'est du stock tout ça.
Ben, ouais, merci. Ben, on est vraiment dans les débuts là, pour nous aux États-Unis. Tu sais, on a une bonne distribution, mais moi, je vois ça comme la ligne de départ en ce moment. T'sais, on a bâti la fondation, la distribution est là, on est sur les tablettes d'à peu près 500 points de vente. Là, c'est go time. Il faut bâtir la communauté là-bas, que les gens nous découvrent puis qu'on accélère. Comment que ça s'est passé? En fait, les premiers mois, ça a vraiment pas bien été parce que moi, je me suis dit, ben, tu sais, je l'avais fait un peu par moi-même pour rentrer en Ontario puis rentrer dans l'Ouest canadien. Tu sais, j'avais été la personne aux ventes qui contactait les détaillants, les distributeurs, puis tu sais, faire vraiment le travail de terrain. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose aux États-Unis. Fait que commencer à contacter un paquet de monde aux États-Unis. J'avais une couple de contacts qui m'aidaient, puis finalement, j'ai pas choisi les bons distributeurs, je misais pas. En tout cas, toute ma stratégie, vu que je connaissais pas super bien le territoire, était comme vraiment pas là la bonne. Fait que les premiers 5-6 mois, ça a été complètement perdu. On a pas avancé. Fait que là, j'ai dit, OK, non, ça marche pas. Fait qu'on a été embauché une personne vraiment exceptionnelle, là, qui, elle avait bâti sa marque avec son mari. Un peu la même histoire que moi puis Claudia. Okay. Marc, dans le congelé. Qui avait monté jusqu'à 4000 points de vente, ils ont vendu leur compagnie, puis là était à chercher quelque chose d'autre, un autre projet, mais elle voulait pas le partir par elle-même. Fait que super fit, elle s'est joint à nous, puis là c'est une personne très entrepreneur évidemment comme tu peux imaginer, puis c'est vraiment elle qui a mis en place, je dirais, dans la dernière année toute la base pour nous avec les bons distributeurs, les bons détaillants. Fait que écoute, des fois il y a des coups de chance comme ça, hein, tu trouves les bonnes personnes au bon moment. Nous, ça a été elle qui a vraiment pu mettre la fondation pour nous.
OK, ben là ça c'est intéressant, je vais en savoir un peu plus. Donc j'ai quelques questions qui me viennent en tête avec ça là. La première chose, comment vous avez découvert cette personne-là? Est-ce que c'était parce que là on était dans des périodes assez spéciales là, dans les deux dernières années, ça s'est fait en ligne, ça s'est fait dans des rencontres en présentiel, comment tout ça s'est déroulé?
Ben c'est une bonne question. Moi, une des affaires que j'ai commencé à faire, je te dirais, il y a peut-être un an et demi, même 2 ans, j'ai commencé à connecter avec tout le monde que je connaissais qui était aux États-Unis. Tu sais, puis tu sais, j'ai des cousins qui habitent là-bas. Je leur demandais, tu connais-tu du monde dans l'alimentaire? Connais-tu du monde en affaires? Puis j'ai essayé de vraiment connecter. Puis je prenais des calls avec vraiment n'importe qui pour essayer de me faire un réseau, tu sais. le tout à distance, pas mal à distance. On est allé à New York quelques fois pour rencontrer des gens, mais pas mal à distance. Puis au fil de ces rencontres-là, tu sais, je terminais un appel, puis je demandais, y a-tu quelqu'un que tu peux me faire rencontrer dans telle affaire, tu sais, en marketing, moi, bon. Fait que j'ai lâché mon réseau, puis j'ai fini par rencontrer un monsieur qui avait bâti une marque alimentaire, puis que là, il était devenu CEO d'une autre compagnie, puis c'est en lui parlant de mes besoins que je lui disais, je cherche, tu sais, quelqu'un aux ventes qui pourrait vraiment nous aider. Il a dit, hey, ben ma femme, ben on a bâti notre entreprise ensemble, puis là, elle est disponible. Fait que c'est sa femme, en fait, qui m'a introduit, puis ça a été un... Ça a été un shit. Fait que ça a été vraiment ça, tu sais, l'espèce de compulsion que j'avais à créer du réseau, à réseauter.
Puis présentement, elle s'occupe de quoi précisément? Est-ce qu'elle s'occupe des points de vente? Est-ce que c'est elle qui est en charge du marketing de la marque? Quel est son rôle spécifiquement?
Comment qu'on voyait notre entrée aux États-Unis, c'était deux volets. Il y avait épicerie, puis spécifiquement épicerie naturelle. Fait que on a bâti justement ce réseau-là là, de 500 à peu près épiceries, puis on est en train de le croître. Fait que ça a été vraiment ça son mandat, c'est mettre le produit sur les épiceries et puis faire le pont avec le marketing pour que les gens le découvrent aussi en épicerie. Parce que c'est pas tout de le mettre derrière les tablettes, là. Faut que les gens, avec le bon marketing, le découvrent, puis l'essayent, puis tout ça. Fait que ça a été vraiment son morceau.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissement publicitaire Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
L'autre morceau pour nous dans notre entreprise aux États-Unis, c'était le web. Puis ça a été géré par notre équipe marketing qui l'avait déjà fait pour le Québec, l'Ontario, le BC. On a reparti un petit peu avec la même machine pour les États-Unis, mais ça, c'est encore en itération. Tu sais, trouver le bon message puis la bonne approche pour acquérir des clients en ligne, là, c'est pas encore gagné.
Donc oui, je te relance là-dessus un petit peu, Dominique, de commerce en ligne, d'implantation aux États-Unis. Donc présentement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, 2500 points de vente que vous avez partout en Amérique du Nord. Une présence en ligne qui est assez intéressante, qui automatiquement amène les gens vers un abonnement. Et là, tu nous disais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de rentrer aux États-Unis avec ce modèle-là, avec ce modèle de vente en ligne-là. Et je vais te poser par la suite une sous-question, à savoir comment vous balancez cette croissance-là entre point de vente et vente en ligne. Mais je serais curieux de t'entendre sur votre implantation aux États-Unis avant.
Mm-hmm. Ben, au niveau du web, je pense que ce qu'on a découvert, c'est autant qu'il y a des différences, mettons, avec le Québec et l'Ontario, au niveau de la communication, la langue, évidemment, plein de différences, ben t'as le même delta en disons l'Ontario puis les États-Unis. Fait que je pense qu'on est en train encore, tu sais, ça fait juste un an qu'on a lancé, on est encore en train de perfectionner la façon de présenter le produit, la proposition de valeur, puis de trouver le bon client aux États-Unis. Puis on navigue aussi dans un environnement là-bas qui est beaucoup plus compétitif. C'est la première fois qu'il y a vraiment des compétiteurs directs. Fait que comment qu'on deal avec tout ça, comment qu'on fait notre place dans un environnement qui a de la compétition au niveau du web, c'est tout nouveau. Fait qu'on est en train de naviguer tout ça. Ça a été un lancement au-delà de mes attentes en termes de nombre de gens qui ont commandé le produit, mais on n'est pas à un stade où, tu sais, on peut dire ok, ça va être un rocket ship dans les prochains mois. Tu sais, il faut encore faire nos devoirs avant de dire ok, on pèse sur la pédale. Fait que donc, il reste du travail de communication.
À quel point que vous avez été capable de vous rendre compte que l'investissement marketing pour percer un marché américain doit être plus colossal qu'un investissement au Canada?
Je m'en suis rendu compte cette année. On a lancé au début de l'année dans l'Est des États-Unis. Puis ça l'a vraiment bien parti. Nous, la saison forte, c'est de janvier, janvier dans le fond à, je dirais, mai-juin. Là, tu sais, c'est les bonnes habitudes de vie, les gens... Les gens consomment énormément de smoothies. Fait que ça allait super bien. Fait qu'on a lancé en mai dans l'Ouest américain aussi, en Californie. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il supportait deux territoires au niveau de l'acquisition, au niveau de la logistique. Là, c'est comme... C'était devenu un casse-tête qu'on n'était plus capable de... Ben, qu'il était plus... C'était plus intelligent de le supporter. Fait qu'on est... On revient là vraiment à focusser sur l'Est des États-Unis au niveau de la logistique, au niveau de la distance puis tout ça, c'est ça fait beaucoup plus de sens. Faire vraiment, vraiment un bon success story là avant de relancer en Californie. Fait que c'est le genre d'affaire que tu apprends, tu lances, tu viens exister, tu vas ouvrir des territoires, puis finalement, ben là, c'est ça. Tu reviens vraiment à c'est quoi le morceau qu'il faut vraiment que je gagne? C'est où le territoire qu'il faut que je gagne avant de rentrer sur un autre territoire? Fait que.
Puis comment ça se déroule pour votre livraison de produits? Vous avez. Comment tout le on pourrait dire la sauce secrète de Evive, là, comment ça se déroule tout ça? Donc, vous les faites là-bas, vous avez des entrepôts là-bas, vous avez des gens qui travaillent sur place, vous déléguez ça à un troisième parti. Comment tout ça se déroule?
Les produits sont faits au Québec, sur la rive sud de Montréal. Tous les produits qui sont vendus en Amérique du Nord. Et la beauté du modèle Evive, ben, c'est que c'est surgelé. Fait que c'est la surgélation, c'est la meilleure façon de préserver la nourriture. On conserve les nutriments, le goût, la couleur, tout ça, sans aucun additif. Puis ça permet de le transporter aussi sur des grandes distances sans qu'il y ait d'altération. Tu sais, des produits frais ou que là, faut que le produit atteigne le rayon d'épicerie dans quelques jours après la production parce que sinon ça va devenir trop pire ça, ben là tu veux te rapprocher un petit peu plus de tes marchés. Il va avoir un stade où EV va devenir assez gros aux États-Unis pour dire ok, là ça vaut la peine de produire plus régionalement pour sauver sur la logistique, mais on est encore dans les débuts, fait qu'on produit encore tout à partir d'ici.
Puis vous contrôlez toute votre usine de votre côté, c'est vos employés qui sont là-bas, c'est pas mis un troisième parti présentement qui fait ça pour vous.
C'est un hybride. Ouais. Je dirais pas que c'est un partenaire, c'est pas un sous-traitant proprement dit parce qu'on a des employés à Evive qui travaillent là en qualité, en achat, approvisionnement, en logistique, et puis notre partenaire lui s'occupe vraiment du côté manufacturier. Fait que chacun ses forces. On a été manufacturier pendant 3 ans. Je pense qu'on a amené ça jusqu'où on pouvait l'amener, mais tu sais, on n'était pas des experts en manufacturier. Puis en trouvant un partenaire qui avait fait ça pendant 20 ans, ça nous a vraiment, vraiment élevé. Puis ça a permis à Evive de focusser sur le développement de produits, le marketing, la création de la marque. Puis c'est vraiment là qu'on sent qu'on est les meilleurs. Tu sais, fait qu'il faut trouver sa niche, puis où qu'on est vraiment bon, puis le reste trouver des bons partenaires. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a fait.
Parce que c'est un autre type de business, le rendu à 30 millions de chiffre d'affaires, c'est vous rentrez dans un jeu qui est totalement différent ici.
Ouais, exact. En tout cas, pour nous, si on essayait de tout faire, manufacturing, distribution, vente, commercial, développement de produits, on irait beaucoup moins vite. C'est sûr qu'on irait moins vite. Bien sûr. Pour la même quantité de capital puis de ressources, ben, il faut que tu fasses plus de choses. Fait qu'on a des bons partenaires dans tous ces volets-là, puis ça nous permet de focusser puis de croître plus rapidement.
Intéressant. On a parlé de cette fameuse croissance-là que vous avez eue dans les dernières années. Es-tu capable de nous donner un ordre de grandeur sur ce qui se déroule présentement en point de vente et ce qui se déroule en vente en ligne, juste pour bien situer l'audience aujourd'hui?
Ben nous, tu sais, notre modèle, on l'a découvert en 2018 quand on a lancé le commerce en ligne, parce qu'avant ça, on vendait uniquement dans les épiceries. Puis c'est quand on a lancé en ligne que, ben dans le fond, on était les premiers à vendre du surgelé en ligne. On a tout démystifié la livraison de congelé à domicile. Puis on s'est rendu compte que les clients il y avait beaucoup de clients qui étaient prêts à commander de la nourriture puis avec un système d'abonnement. Fait que ça nous a permis de croître au niveau du web. Puis il y a très, très, très peu de marques congelées qui sont là encore aujourd'hui. Fait que pour nous, ça nous donne quand même un beau territoire pour développer, pour innover. Puis on est resté aussi dans les épiceries. Fait que c'est à peu près 50%, 50-50 en termes de split. Puis le web, c'est vraiment une expérience particulière. T'sais, on va amener beaucoup d'innovations. On va vraiment impliquer les gens dans le développement de nos produits. Puis c'est un système d'abonnement. Donc c'est vraiment pour un client qui est très régulier, qui veut consommer des smoothies à chaque mois puis qui aime l'innovation. Puis en épicerie, ben c'est encore 95% des gens qui achètent toute leur nourriture en épicerie. Fait qu'on va chercher vraiment tout le monde là, qui font leur épicerie, qui mettent un sac de Evive ou deux ou trois dans leur panier. Puis fait que chaque client a un peu son lieu d'achat favori.
Et bon, on l'a mentionné, tu as lancé cette entreprise-là avec ta femme Claudia. Et chaque personne qui vient sur le podcast et qui a un actionnaire, un partenaire d'affaires, je leur pose toujours la même question, savoir est-ce que vos rôles sont bien définis? Et je ramène ça à toi maintenant aujourd'hui, Dominique. Est-ce que toi et ta conjointe, vous avez une complémentarité dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez des rôles bien définis ou des fois peut-être vous vous pilez un petit peu sur les pieds?
Ouais, c'est une bonne question. On était vraiment, vraiment chanceux, moi puis Claude, parce qu'on s'est pas posé la question, tu sais, en partant en affaire, même pas une fois, là. On s'est jamais dit, est-ce que, tu sais, c'est une bonne idée, tu sais, pour le couple. Quand on a parti à vivre, maintenant, ça fait 12. Fait qu'on se connaissait beaucoup, puis on est deux personnes qui se ressemblent au niveau des valeurs. On se ressemble énormément, mais au niveau des intérêts et des compétences, on est vraiment différents. T'sais, Claudia, elle étudie plus au niveau, elle étudie en psychoéducation, fait beaucoup plus au niveau humain, caring. Puis moi, ben en génie mécanique, bon, cerveau droit, cerveau gauche, mettons, disons non de même. Puis, fait que dès le début, moi, j'ai focusé beaucoup plus sur la production, la distribution, les ventes. Puis Claudia, elle a pris tout le volet brand, marketing. Puis l'un sans l'autre, on n'aurait pas avancé. Je veux dire, tu peux en produire autant que tu veux. S'il y a personne qui te découvre, puis si tu crées pas une marque, personne va en acheter là, de tes produits. Fait que ça nous a vraiment, vraiment, vraiment permis d'avancer. Plus spécialisé, Claude est vraiment devenue, je dirais, la gardienne de la marque, avec une équipe marketing pour la supporter. Puis moi, j'ai pris plus un rôle stratégique au niveau direction générale, innovation, que moi, que j'aurais jamais pu l'être. Puis même chose aux opérations, là, tu sais, j'étais vraiment rendu dépassé, fait que j'ai engagé une équipe beaucoup pas mal meilleure que moi pour gérer tout ça. Là, c'est dans mes mains, puis j'adore ça. C'est quelque chose qui me fait vraiment triper.
Puis, es-tu capable de nous donner un petit peu un échéancier de comment ton rôle a évolué à travers le temps? Donc là, tu viens de nous dire ce que tu fais aujourd'hui, mais bien entendu, ça devait pas être le rôle que tu faisais en 2018, encore moins en 2017. Es-tu capable de nous dire un peu comment que ça a évolué? Ça a été quoi le pilier de croissance que vous avez dû atteindre avant que tu puisses déléguer, disons, ton équipe de vente, que tu puisses déléguer la croissance aux États-Unis? Peux-tu nous donner un petit peu un échéancier de tout ça?
Mm-hmm. Ben, la première année, on faisait tout. Il y avait juste moi et Claudia. La première embauche qu'on a fait, c'est au niveau marketing. Fait que c'est une stagiaire qui est aujourd'hui notre chef du marketing avec nous. Puis elle a monté tous les échelons. Puis c'est elle qui dirige l'équipe maintenant. Fait que super belle histoire. Ça a été notre premier employé. Et puis notre deuxième employé, c'est quelqu'un en production pour m'aider. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que je te dirais au début, 85% de mon temps, c'était en production. Fait que je voyageais matin, soir, de Montréal à Saint-Hyacinthe, c'était fou, là. Je travaillais tout le temps. C'était vraiment intense. Puis toutes les cubes étaient coupés à la main, hein. Fait que moi, je me suis ramassé avec des tendinites dans les deux poignets parce que je coupais des plaques de glace à longueur de journée. Puis après ça, on pelletait les cubes dans des sacs. Puis c'était vraiment, vraiment intense au niveau physiquement. Puis ultimement, ben la troisième année, on est arrivé avec l'idée des petites roulettes. Donc là, on a pu vraiment plus augmenter la capacité de production, automatiser. Et puis là, j'ai engagé des gens très compétents en production, là, des directeurs de production puis tout ça. Puis là, j'ai pu me sortir un peu puis me focusser plus sur les ventes à ce moment-là. Fait que j'ai transitionné d'un, si tu veux, un directeur des opérations à un directeur des ventes. Puis après ça, je me suis remplacé au niveau des ventes en 2019. Puis là, ben depuis ce temps-là, j'ai pris un rôle où je vais supporter plus toutes les équipes versus avoir un rôle spécifique. C'est de dire je m'occupe de X. Mais ça prend du temps parce que tu sais, des gens compétents d'expérience, c'est un directeur des opérations, un directeur des ventes, ben tu sais, c'est un investissement, tu sais, faut que tu aies la capacité, faut que tu aies le volume pour te payer ça, pour pouvoir te déloader. Fait que ça nous a pris quelques années, mais on est rendu à un stade où on peut engager des gens bien meilleurs que moi.
Intéressant, ben fascinant même, une croissance aussi rapide que vous avez été capable de le faire. C'est très rare qu'on voit ça. Et avant de passer à des petites questions personnelles, Dominique, peux-tu nous dire à quoi ressemble le futur de Evie? Tu nous as dit tout à l'heure que l'entrée aux États-Unis n'est clairement pas une destination, mais davantage un départ. À quoi ça ressemble votre entreprise, le futur, pour les 2-3 prochaines années?
Ben, c'est un travail qu'on a fait justement récemment, tu sais, de définir c'est quoi la vision, parce que c'est le fun puis ça marche, puis t'as pas vraiment nécessairement de poser la question, surtout qu'on savait même pas qu'il fallait se la poser comme étant des jeunes entrepreneurs. Récemment, on a vraiment, vraiment clarifié c'était quoi. Puis tu sais, pour revivre, je vais te donner une image, là, puis ça vaut 1000 mots. C'est quand tu te promènes dans la section congé dans les épiceries, en fait, c'est pas une section santé. Il y a personne qui peut dire ça, c'est une section ou que de la bouffe qui goûte bon, puis qui est pratique, puis qui est pas cher, mais c'est pas une destination santé. Puis Evive, nous, on veut transformer les congélateurs en Amérique du Nord en une destination santé. Fait que ça revient un peu à la mission, on veut élever la nourriture qu'on consomme pour augmenter notre bien-être. Fait catégorie par catégorie, on voit vraiment l'innovation comme étant au cœur de ce qu'on fait. Catégorie par catégorie, on veut élever la nourriture du congélateur pour en créer une destination santé. Fait que dans quelques années, ben Vive, ça va être multicatégorie, ça va remplir les congélateurs des gens. Vous allez ouvrir votre congélateur, vous allez pouvoir préparer des soupes, des repas, des smoothies, des muffins. Je pense plein d'idées qu'on est en train de développer, mais ça va être une destination où tu vas pouvoir préparer vraiment ce que tu veux, puis ça va être super santé, puis tu vas te sentir bien, puis ça va être frais. Fait que c'est un peu ça la destination. Puis aux États-Unis, ben on travaille très fort pour en faire un succès, puis que la marque soit reconnue là-bas aussi.
Wow. Dominique, j'aime toujours poser ces questions-là aux gens qui viennent sur le podcast. J'aime beaucoup la lecture d'affaires. Ça m'aide personnellement à me faire une tête sur les décisions ultimement que je veux prendre avec mon entreprise. Qu'en est-il de ton côté? Est-ce que tu lis un petit peu des livres business ou pas du tout?
Quand même beaucoup, tu sais. C'est un peu comme ça que j'ai appris, puis j'ai fait je me suis développé là au fil des dernières années. T'sais, j'ai eu quelques mentors, tout ça, mais c'est vraiment été beaucoup avec la lecture. Plus récemment, un livre qui a vraiment, vraiment orienté ma vision pour la gestion de l'équipe, c'est le livre sur la culture de Netflix qui s'appelle No Rule Rules, que j'ai vraiment adoré. Tu l'as lu aussi?
Il est juste là derrière moi pour les gens qui nous écoutent. Ça a été un de mes... en 2021, avec Amazon Unbound, ça a été mes deux meilleurs livres.
Ouais. Même chose pour moi, ce livre-là, je l'ai envoyé à toutes mes managers. J'ai dit, tu sais, c'est pas un copier-coller. On peut pas copier-coller la culture de Netflix dans les livres, mais il y a certains éléments que pour moi, ça a été... ça a été des révélations, puis qu'on a implémenté. Fait que super livre, vraiment là. Puis sinon, écoute, cette année, j'ai lu un peu moins que d'habitude. J'ai commencé un peu à relire des fictions pour me changer les idées aussi. Ça, c'est toujours bon là. Fait que du Patrick Sénécal, c'est assez. Ça te sort de ton quotidien.
Je pense que tu écoutes un peu des podcasts, ou du moins tu en as fait quelques-uns récemment. Qu'est-ce qui joue présentement dans tes écouteurs et dans ta voiture quand tu as à faire de la route?
Je te dirais qu'au niveau des podcasts, j'ai pas un podcast que je suis religieusement. Je vais y aller vraiment avec ce que je veux apprendre. Fait que, comme plus récemment, on a beaucoup, beaucoup de travail au niveau de notre marketing. Justement, je parlais un peu de comment qu'on peut développer la marque qui vive aux États-Unis. T'sais, c'est quand même un gros défi qu'on a devant nous. Fait que j'écoute le CMO podcast, ou que t'as un ancien CMO de Procter & Gamble là, qui reçoit d'autres CMO, que ce soit les CMO de, je sais pas, Pinterest ou... Fait que t'as du monde des top du marketing, puis là, ils vont parler de certains différents sujets. Fait que pour moi, ça me permet de développer un peu de connaissances, puis de parler marketing avec mon équipe, puis de les challenger, puis d'arriver avec des idées pour pas juste être clueless, puis pas pouvoir participer à ces discussions-là. Fait que en ce moment, c'est vraiment là-dessus que je m'intéresse beaucoup.
Intéressant. Dernière question que je te pose avant de te laisser filer. À quoi ressemble ta routine pendant, avant et après le travail? Et petit bémol ici, des fois, des gens n'ont pas de routine, mais des fois, des gens en ont, donc je serais curieux de t'entendre ici.
Ouais. Moi, ça varie, tu sais, je vais tomber vraiment avec une routine spécifique pendant 2-3 mois, puis après ça, je vais comme changer mes trucs. De ce temps-ci, c'est sport à chaque matin. Ben, on a eu un bébé, en fait, en août, fait que ça l'a comme forcé une routine un peu. Ouais, merci. Fait que c'est sport pendant 30 à 45 minutes. Après ça, je prends quelques suppléments à chaque matin, mon smoothie, mon déjeuner, puis après ça, j'ai un peu de temps avec mon bébé, puis après ça, je commence à travailler. Mais tu sais, il y a 6 mois de ça, je m'entraînais pour une grande course. Fait que j'avais des longues courses le matin. Fait que c'était pas vraiment différent. Fait que ça varie. Ça varie au fil de l'année. Puis c'est ça que j'aime aussi. Que c'est pas... Je suis pas super routinier. Fait que j'aime ça quand ma routine change.
Intéressant. Puis, Dominique, comment les gens peuvent en apprendre plus sur vous? Donc, bien entendu, le site web, si on veut acheter vos produits, on va vous retrouver également dans des points de vente. Mais avez-vous peut-être des postes d'ouvert présentement? Est-ce que vous recherchez les gens qui peuvent vous aider dans votre équipe?
Absolument, oui, on a des postes. Puis je pense qu'on a une page carrière sur le site web, mais je veux pas m'avancer. Sinon, je pourrais envoyer le lien. Mais souvent, on va les poster sur les réseaux sociaux là, quand on a des postes aussi, si on a des questions, s'ils veulent jaser. J'adore connecter, comme je parlais un peu plus tôt. J'adore réseauter, fait que LinkedIn, super bon moyen de me rejoindre.
Merveilleux. Dominique Dubé, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Félicitations pour cette très belle entreprise que toi et ta conjointe vous avez bâtie au cours des dernières années. 30 millions de chiffres d'affaires en 5 ans. Félicitations. C'est tout à votre honneur, tout ça.
Merci Antoine.
C'est ça. On invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil à votre site web, à regarder vos produits en épicerie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Une autre histoire phénoménale, celle de Dominique et Claudia. Assez fascinant de voir qu'une problématique quotidienne s'est transformée en une organisation faisant des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires quelques années après leur fondation. Chapeau à l'équipe de Vive. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis, à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.